cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Pour ce nouveau podcast, cobuzz.com, nous sommes avec Samuel Pizard. Samuel Pizard, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Si à Cobuzz nous voulions vous rencontrer, c'est pour évoquer un disque qui vient de sortir, un programme intitulé Kaddish, avec l'orchestre dirigé par John Axelrod, des œuvres de Kurzweil, de Schoenberg, mais surtout la troisième symphonie de Bernstein, pour laquelle vous avez réécrit un nouveau texte de la partie de récitant de cette symphonie. Alors, sans rentrer évidemment dans l'intégralité de votre biographie, on peut dire que voilà, vous vivez à Paris, vous êtes l'un des plus jeunes survivants de la Shoah, vous êtes l'auteur entre autres du Sang de l'Espoir. Votre vie a été parsemée de voyages, de rencontres. Vous êtes né en Pologne, je crois que vous avez été éduqué également en Australie, vous avez vécu une partie de votre vie en Australie. Vous vivez à Paris désormais, vous avez été conseiller du président Kennedy, vous présidez la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Mais effectivement, le but de cette rencontre aujourd'hui, c'était vraiment d'évoquer ce texte que vous avez écrit pour cette symphonie, évoquer Leonard Bernstein également, qui était un de vos amis. Comment ce texte vous a été commandé, je ne sais pas si on peut dire si le mot commandé peut être utilisé, et également voir comment votre vie, votre témoignage s'immisce, fusionne, je ne sais pas comment vous voyez justement l'art, la réalité, l'histoire dans l'art. Alors je pourrais commander tout simplement par la question un peu basique, c'est comment vous avez rencontré...
C'est un vaste programme que vous envisagez là.
Alors, je voudrais juste commencer d'abord, c'est comment vous avez rencontré et quand vous avez rencontré Leonard Bernstein?
En vérité, c'était l'ami de ma femme, Judith Pizard, qui est beaucoup plus impliquée dans l'univers musical de Paris et de New York que moi-même. Et c'est elle qui m'a présenté à Bernstein à New York. J'étais déjà un peu dans son cosmos, parce qu'il a été éduqué à Harvard, comme moi-même, mais plusieurs années avant. Ensuite, il était un ami de très longtemps, et un très proche ami du président John Kennedy, dont j'étais un jeune assistant. Et quand je l'ai retrouvé avec Judith, il était le grand Bernstein, les mythes que nous connaissons. Notre rencontre véritable, musicale, était plus tard.
Avant cette rencontre humaine, que représentait Bernstein pour vous? Quelle appréciation vous portiez sur le personnage, sur son œuvre?
Je dirais un homme de Renaissance, de la Renaissance. Il savait tout faire. Pas seulement un grand musicien, mais aussi... un littéraire, un philosophe, et j'étais très impressionné par son talent de pédagogue. Même au début de la télévision, quand j'étais encore étudiant, je le suivais constamment parce qu'il était magique, surtout avec les jeunes et les très jeunes. Personne jusque-là n'a parlé de la musique de cette manière. Ce qui nous liait aussi, c'était, mais je ne le savais pas à l'époque, il a perdu une partie de sa famille dans la Shoah, mais il n'a pas souffert directement dans la chair lui-même. Et ce qui nous a réunis, nous deux, c'était justement cette affaire. C'est devenu concret en 1989, parce que il m'a demandé d'écrire un texte pour un vaste concert qu'il projetait au moment de la commémoration du commencement de la Deuxième Guerre mondiale. J'étais étonné. Il voulait surtout que ce soit quelqu'un qui a vécu ce commencement-là. À l'époque, j'étais un très petit garçon en Pologne, et les bombes ont commencé de tomber justement là. Donc, je lui ai fait un texte. Il m'a demandé d'en faire la narration. C'était un concert qui a été distribué par Monde Vision et par la BBC dans le monde entier ce soir-là, à partir de la Grande Opéra de Varsovie, le lieu du crime. Ce concert qu'il dirigeait avait des participations de l'Est et de l'Ouest, les grands virtuoses, les grands soloistes de la Russie, de l'Angleterre, de la France, Barbara Hendricks, Zimmermann, Panderecki, le grand baryton de cette époque, l'Allemand, j'ai oublié son nom, et quelques autres de cette trempe. Et moi, je narrais le texte depuis le début jusqu'à la fin, en anglais. C'était transmis à 120 pays ce soir-là.
Alors justement, c'est peut-être un début de réponse par rapport aux questions liées à cette symphonie. Là, pour ce texte-là, justement, est-ce que c'est un texte que vous avez écrit en pensant à la musique, en étant conscient du programme qui allait être joué? Ou c'était indépendant?
Ce texte était autre chose que mon
texte
Kaddish.
Oui, bien sûr, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que ce texte-là était...
J'ai commenté les grands événements majeurs de la Deuxième Guerre mondiale depuis le commencement de la guerre jusqu'à la victoire, quand j'étais libéré par l'armée américaine de Dachau. C'était après Auschwitz, après Majdanek, après tous les enfers de l'Europe. À l'époque, ma compréhension de tout ça était limitée. Je savais ce qu'il attendait de moi.
D'accord.
Mais je ne me suis pas trop préoccupé de la musique.
Voilà, c'était, je voulais savoir si vous qui êtes écrivain, est-ce que quand on écrit sachant que vos mots, votre texte est accompagné, entouré, enrobé, je ne sais pas comment on peut dire, de musique, est-ce que votre approche de l'écriture et de la narration de ces événements est différente?
Non, différente. Mais elle a évolué. Parce que là, il faut que je vous parle du Kaddish. Il estimait que j'ai compris, que je déchiffrais la convergence de mots et de la musique. Vous savez, je suis avocat international, donc il m'arrive de plaider très souvent dans des procès importants. J'imagine que je maîtrisais l'art de l'oration.
Un côté chef d'orchestre un peu quand on plaide?
On est souvent chef d'orchestre, surtout quand c'est un litige extrêmement important. Vous êtes à la tête d'un groupe d'avocats et il faut faire cette coordination de mille manières. Mais oui, j'étais souvent dans ce sens-là, métaphorique chef d'orchestre. Mais vraie rencontre musicale a évolué avec Bernstein parce qu'il m'a parlé d'un opéra sur l'Holocauste. C'était un projet qu'il avait. Il m'a demandé mon avis. Je lui ai dit que ce projet-là ne me chantait pas. Je lui ai dit que je ne peux pas imaginer quelqu'un comme Maria Callas en train de chanter une aria devant une chambre à gaz à Birkenau. Et au lieu de ça, je lui ai proposé de réfléchir à une symphonie olympique, parce que j'étais l'avocat conseil du Comité international olympique, responsable dans ce domaine de 6 Olympiades depuis Moscou 1980 jusqu'au Sydney 2000. Bernstein est mort en 1990, mais je voulais le convaincre de faire un opéra olympique, peut-être pour les Jeux un jour de Paris ou de Pékin. La décision n'était pas encore prise. Et j'étais incité par le président du comité olympique, Juan Antonio Samaranch, qui adorait la musique de Bernstein et qui me disait, et à ma femme aussi, essayer d'influencer Bernstein parce que l'olympisme a besoin d'une symphonie. Il y a un hymne, naturellement. On a parlé d'autre chose aussi, mais il était déjà malade. Et donc, tout se focalisait sur cette immense symphonie numéro 3 de Bernstein, Kaddish. Et là, j'étais totalement époustouflé quand il m'a dit, Samuel, il faut me faire un autre texte pour Kaddish parce que je ne suis pas content du texte que j'ai écrit moi-même. C'est un texte qu'il a écrit en 1963, à la veille de la création de cette symphonie pour la première fois en Israël, avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Et, trois semaines avant les concerts, Kennedy était assassiné, et sous le choc de l'émotion, c'était un peu paradoxal, il a dédié cette œuvre qui porte le nom d'une très ancien et noble prière juive à la mémoire du président Kennedy. Alors, quand il m'a lancé, vous allez écrire un autre texte, je lui ai dit non. Lenny, non. Pourquoi ? Je lui ai dit non. D'abord, je ne peux pas écrire la poésie au niveau de votre musique. Numéro 2, je ne me vois pas déclamer en public les calamités qui ont emporté une grande partie de mon peuple, toute ma famille, et qui ont ruiné mon enfance. Mais surtout, je n'ai pas envie de recommencer ma bagarre avec Dieu à cause du fait que quand j'avais besoin de lui à Auschwitz, etc., il n'était pas là, il était inerte, il était absent et il était silencieux. Donc c'était niet. Mais Bernstein n'a pas lâché. Et d'ailleurs, son texte était un excellent texte. Mais son problème était qu'il estimait que la musique était si puissante et que même s'il écrivait bien, ce n'était pas, la parole n'était pas son instrument. Ce mot était textuellement: moi, je n'ai pas souffert, je n'ai rien à lui dire, je danse autour de lui avec mes mots d'une manière un peu légère, ça ne donne pas grand-chose. Toi, tu as souffert, il faut que tu fasses ça ta façon, et je sais que tu oserais parler à Dieu, que tu as l'autorité de lever ta voix contre lui parce que tout le monde sait d'où tu viens. Je n'étais pas influençable. C'était seulement 11 ans après sa mort, sous la pression de Judith Pizarre, un petit peu de sa famille et de ses collaborateurs, parce que c'était son désir. Je commençais à écrire. Et c'était juste après le 11 septembre 2001. Pourquoi ? Parce que cet événement m'a beaucoup marqué. Et j'avais la sensation d'être à nouveau dans un monde qui s'enflammait. Pas tout à fait une copie conforme de ce que j'ai vécu dans les années 30 et 40, mais c'était...
L'histoire se répétait ? Quelque chose à une réflexion ?
Le commencement d'un autre chaos, de quelque chose d'imprévisible. Et donc, j'ai décidé que c'était mon devoir de lever son défi, le défi qu'il m'a lancé, et que j'avais besoin de méditer un peu sur ma propre foi. C'est dans cette perspective que je me suis mis à écrire. Et c'était le début d'un processus extrêmement complexe.
Oh Lord, how laden with sorrow is the history of your chosen people. Let us examine together the loving paternal compassion that you have showered upon us since time immemorial. The slavery in Egypt, the Babylonian captivity, the Roman conquest, the marauding crusades, the Spanish Inquisition, the Russian pogroms, the Nazi genocide, and now the Islamic jihads. The list is endless, Father. And bloodthirsty demons, who call the Holocaust a myth, are again plotting to wipe us out. In their eyes, we're always guilty. Guilty when we brought you lofty commandments to a pagan world. Guilty in the diaspora, when peace-loving and unarmed, we are slaughtered like lambs. Guilty in the promised land, when we took up arms so we are never slaughtered again. True, we have no monopoly on suffering. The list of crimes against other races, colors, and creeds are also painfully long. And they, too, deserve an honored place in my Kaddish. Such crimes are committed not only by the godless Lord. Suicidal fanatics profane the great faith of Islam by slaughtering innocents, even their own kin. In the sanctified name of you, our common God.
Et justement, c'est-à-dire que quand vous avez commencé à écrire, à rédiger ce texte, est-ce qu'il fallait déjà dans un premier temps oublier au fond de vous-même le premier texte, le texte de Bernstein? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez aisément fait abstraction de ça? Est-ce que vous vouliez que votre texte se raccroche quand même à quelque chose de son texte à lui? Comment ça s'est passé au tout début?
Non.
Dès que vous avez commencé à écrire?
Non, je décidais de faire un texte tout à fait différent.
Est-ce que c'était facile, justement, de vous complètement d'oublier ce...
Et de... rien n'était facile, mais ça, c'était clair pour moi. D'ailleurs, c'est ça qu'il cherchait. Un thème différent. Et pour moi, le thème différent, c'était la Shoah, parce que c'était en quelque sorte, dont j'étais en quelque sorte une réincarnation à l'échelle d'un seul individu. Mais j'ai compris tout de suite que il fallait d'abord que je clarifie un peu mes relations avec les cieux. Je n'étais pas très pratiquant, hein, même si mes relations avec le Tout-Puissant se sont arrangées. On m'a demandé hier, quand je parlais de ça à un public, dans la salle Pleyel à Paris, développer un peu ce que je voulais dire. Et je leur ai raconté que j'avais des dialogues suivants avec le cardinal Jean-Marie Lustiger. Nos relations étaient affectueuses. Nous nous parlions yiddish même, très souvent. Et Lustiger a très bien compris que ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai dit, mes relations avec Dieu se sont arrangées. Finalement, il se comporte très très bien avec moi. Il m'a ouvert un chemin vers l'éducation. Il m'a donné une nouvelle famille. Et ensuite, je lui ai lancé ce mot-là, un mot catholique, je lui ai donné absolution. Mais j'avais besoin, pas seulement de quelques grands rabbins et de quelques cardinaux et pasteurs, mais il fallait que je relise Voltaire, Blaise Pascal et Nietzsche pour comprendre comment les philosophes ont exploré tout ça. Et je suis arrivé à la conclusion que pour moi, il fallait que je construise une foi pour ma consommation personnelle. Et c'était très étrange parce que j'ai dit dans mon texte ouvertement, ta présence parmi nous est si ancienne, si immense, si pénétrante, que je n'ose même pas me demander si tu es réalité ou illusion. De toute manière, cette présence telle qu'elle est nous apporte un espoir indispensable. Donc, en jouant un petit peu le philosophe, pour moi, s'il existe ou non, n'est plus le problème.
Alors justement, est-ce que ces interrogations, ce chemin pour vous-même, pour la mémoire, etc., est inédit parce que, justement, il devait se faire dans le cadre d'une œuvre musicale. C'est-à-dire que votre texte, évidemment, est un texte écrit. Je reviens un peu à la première question que je vous avais posée sur cette réflexion, ce texte, les mots, la musicalité même des mots, l'agencement des phrases, était différent pour vous et inédit parce que, justement, c'était au cœur d'une œuvre qui est une symphonie.
Oui. Je me suis rendu compte très rapidement que ce que j'ai essayé de dire autrefois avec deux mots, par exemple dans ce livre qui était beaucoup lu dans le monde entier, le Centre de l'Espoir, que c'était tellement plus efficace et plus enrichissant de les dire avec musique, et surtout avec la musique de Bernstein. J'imagine que pour lui, de l'autre côté de cette affaire, lui, il savait le dire avec la musique, mais comme je vous ai dit avant, il voulait que ce soit plus fort dans dans la dimension de mots. Mais le problème était colossal, et le fait que je sois un ignorant dans le domaine de la musique, pas tout à fait naturellement, m'a beaucoup aidé parce que je ne me suis pas rendu compte de la complexité, parce que la musique était déjà préexistante. Et cette musique est très variée. Il y a tout dans cette troisième symphonie. Il y a la violence, il y a la tendresse, il y a le jazz, il y a Gustav Mahler, qui était le grand modèle de Bernstein, souvent. Et moi, même avec mes mots, il fallait que je sois en conformité avec le tempi, avec le mood, comment dit-on ?
Le mood, l'ambiance. L'ambiance.
Oui, et donc je commence avec... mon texte s'appelle « Un dialogue avec Dieu ».
With the same visceral voice and the same clenched fist I once raised against heaven blasphemously, as a skeletal kid with shaved head and hollow eyes, trembling at the threshold of a Birkenau gas chamber, trembling and demanding to know, why have you abandoned us? How can you permit such carnage? Do you even care? At that cursed place and time, where I saw the barge of human civilization go under, when I endured so many tortures and humiliations, you failed me, Father. And in my abysmal despair, I lashed out at you, like Moses smiting the rock in the Sinai desert, like Job protesting his undeserved suffering. I even stopped praying. How could I go on mouthing the pious words to your glory that I had absorbed with my mother's milk? Can you pardon my sins, Lord? Can I pardon yours after our long and stormy estrangement? I can pardon, but I cannot forget. The wounds of my flesh and my mind may have healed long ago, but the wounds of the heart that bleed for loved ones can never heal. To forget, to numb the pain, to dim the memory, would be a betrayal of those who died with your name on their lips. As one of the last living survivors of the Shoah, my life is no longer entirely my own. They also live within me. I must remember them and warn my contemporaries against the man-made catastrophes that may still lie ahead.
Excusez-moi de vous couper, est-ce qu'il y a eu à un moment une frustration de ne pas pouvoir justement communiquer avec l'auteur de la symphonie qui, au moment où vous avez écrit votre texte,
bien
n'était
sûr,
plus là,
bien sûr,
pour échanger justement sur ces questions-là?
Bien sûr, mais je ne sais pas si ça aurait été vraiment utile. Hein. Il aurait pu essayer de m'influencer. Non. La réalité était qu'il était bien mort, moi j'étais bien vivant, et qu'il fallait faire ainsi. Et donc, je commence avec une dispute véhémente avec le ciel, et je termine avec une tendre réconciliation. Et au passage, naturellement, j'exprime une certaine violence, une certaine véhémence, mais il me fallait s'accommoder à la musique tendre. Donc j'ai écrit une berceuse fictive qui est ma grand-mère me chanter. Et c'est ça le contexte dans lequel la soprano solo chante quelque chose de merveilleux. Le deux sopranos avec qui j'ai fait le concert déjà, l'une m'a dit, j'ai assumé la personnalité de votre grand-mère quand je chante ce kaddish en araméen. Vous savez, araméen, c'est un ancien dialecte de l'hébreu, et c'était la langue de Jésus. À cette époque-là, en Israël, en Palestine, on parlait araméen. Et donc, quand je raconte cette berceuse, vous savez, un peu naïf, où elle me chante comme il est grand, comme il est
miséricordieux,
comme il est bon, comme il va s'occuper de moi quand j'aurai besoin de lui. Et le public pense à ce moment-là, parce que c'est parce qu'au milieu de mon texte que justement Dieu n'était pas si grand pendant mon enfance, et qu'il n'était pas, il n'est pas là quand j'avais besoin de lui. Ça a créé un moment extrêmement délicat. Et quand je termine cette berceuse avec le mot le bourreau, quand les bourreaux sont venus la prendre, je la voyais lever ses yeux vers toi, et ensuite je prononce le premier mot du kaddish antique, Iskadal v'Iskadash Shmei Rabba. Ça, c'est le folkrum de cette œuvre. Et donc, c'est seulement un exemple, parce qu'il fallait s'adapter complètement. Vers la fin, ça devient tendre. Et c'est la réconciliation entre nous deux. J'ai été aidé, finalement, par Christophe Eschenbach, directeur artistique de l'Orchestre de Paris et de l'Orchestre de Philadelphie. Il a été très très généreux avec moi et magistral en m'aidant d'intégrer le texte avec toutes ces complexités-là dans la musique préexistante. Vous vous rendez compte que j'avais à traiter des sujets très délicats, très difficiles, dans des espaces extrêmement étroits. Il fallait trouver des mots qui sortaient comme des bombes parfois, pour les dire d'une manière extrêmement concentrée, et pour rester dans le tempi de la musique. Quelque chose.
C'était inédit pour vous, ça, cette approche de l'écriture. C'était total. C'est la première fois, d'une certaine manière, de devoir comme ça fondre votre écriture dans de la musique, dans une autre écriture.
Sans que je sois formé.
Oui, justement, voilà.
Mais apparemment, ça donne quelque chose, parce que c'est efficace. Mmh. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais le fait que j'étais, je répète, plutôt ignorant, m'a beaucoup aidé, parce que je n'ai pas mesuré même la complexité. Mmh. C'était un autre défi de ma vie. pour vous dire la vérité. J'avais déjà pas mal de défis, et je devais s'adapter à des circonstances difficiles constamment, et pour moi, c'était à la fois exaltant du point de vue artistique et très, très, très difficile du point de vue émotif.
Oui, en plus on est un peu dans plein cœur du débat de l'art et de la réalité, c'est-à-dire que c'est une pièce artistique, donc une pièce, une œuvre subjective, une composition, et dedans arrivent des choses concrètes, les mots, certains passages de votre texte, au début notamment, quand vous évoquez précisément l'assassinat de vos parents, de votre famille, donc on a justement comment le réel, le concret, vous-même, votre être entier rentre dans une œuvre de fiction. Et comment c'est un bras de fer, c'est un duo, c'est une fiction. Comment déjà ne serait-ce que poser la question.
C'est ça qu'on appelle en anglais a reality play. Et vous savez, ça touche à beaucoup de choses. Ça touche à la géopolitique, ça touche à la religion, ça touche à la sociologie, parce que Bernstein était un animal politique. Pensez à West Side Story. C'était politique. C'est la bagarre de banlieues.
Ça n'a pas pris de ride en plus, c'est très moderne.
À Harlem, entre les hispaniques et les polacs. Et si vous prenez Candide, c'est aussi la politique. Là, c'était plus que la politique, naturellement, mais la politique, vu la condition humaine aujourd'hui, l'état du monde, j'étais obligé de toucher à ça, parce que qu'est-ce qu'il a essayé de faire en 1963 ? Il était déjà conscient à l'époque, Bernstein, que distance entre les gens et leur foi, cette distance devenait de plus en plus prononcée, et que cela était en train de créer une désorientation partout. Et je pense que cette désorientation est encore plus palpable aujourd'hui qu'elle était quand il a commencé à écrire sa symphonie. Et moi, j'ai donc complété cette dimension contemporaine.
Magnified. And sanctified. Be his great name. Amen.
Quelle valeur vous donnez à un témoignage comme celui-ci via une œuvre d'art, donc via une symphonie, à un témoignage qui va être un texte, j'allais dire, comme vos livres passés. C'est-à-dire, est-ce que pour vous c'est la même chose? C'est une autre facette du même problème, du cube sous un autre angle? Et comment vous voyez justement comment cela est perçu par ceux qui vont le découvrir? Les plus jeunes générations, par exemple?
J'ai essayé de me contrôler là avec cette problématique, parce que j'avais quand même une certaine responsabilité vis-à-vis la musique de Bernstein. Je ne voulais pas pervertir et de trop introduire mes obsessions personnelles. Je ne traite pas l'horreur dans mon texte, l'horreur extrême. Il est là, on le sent, mais ce n'est pas une tirade contre tout ça. Mais la critique musicale, parce que j'ai déjà fait ce concert avec l'Orchestre symphonique de Chicago, ensuite au Festival de Lucerne, et à Berlin, dans la fameuse salle philharmonique de von Karajan, et à Philadelphie avec l'Orchestre symphonique de Philadelphie, qui est un des plus grands du monde. Et la critique musicale m'a révélé des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Par exemple, dans le grand journal de Philadelphie, le critique a écrit que mon texte est universel précisément parce qu'il est si personnel. Paradoxe, j'ai essayé de comprendre, j'ai compris finalement que la grande littérature est toujours très personnelle. Et c'est pour ça qu'elle est universelle. Donc ça, j'ai accepté. Mais ils ont aussi dit que cette symphonie est si riche du point de vue musical, qu'elle est si diverse, il y a tant d'éléments différents, que ce qui lui manquait, c'était une colonne vertébrale. Et les critiques continuent de dire que Bernstein n'a pas résolu ce problème, mais il le sentait, il le savait. Et c'est ça qu'il voulait trouver. Et ils exagèrent peut-être un peu, mais apparemment, c'est moi qui ai trouvé cette colonne vertébrale. Bernstein ne l'a pas su, il a décédé beaucoup trop tôt, comme il est avec le Tout-Puissant dans le ciel quelque part, je pense que il doit sourire un peu, se dire que je vais même contribuer à quelque chose à la musique même, en lui donnant une consistance et une direction.
Comment vous avez travaillé ensuite avec John Axelrod quand il a été question d'enregistrer le disque?
Axelrod est un brillant jeune chef d'orchestre, un intellectuel, aussi un peu philosophe. Il a fait aussi Harvard comme moi, beaucoup plus tard. Et il a connu Bernstein. Il était un disciple, même un étudiant de Bernstein, à 15-16 ans. Et il m'a aidé énormément. Nous nous comprenons comme ce n'est pas permis. Il est obligé de me diriger un peu plus qu'on se permet de diriger un soloiste, mais je dépends de lui dans la salle, parce que deux raisons. La première, je suis un piètre musicien, et deuxièmement, ce qu'il dirige est extrêmement complexe. Avec 325 personnes sur le plateau, deux chœurs, un chœur de garçons, une mezzo-soprano, un orchestre complet, et moi comme récitant.
Est-ce que cette expérience, aussi forte soit-elle, est unique? Vous a donné envie de réitérer de l'écriture liée à un contexte musical, quel qu'il soit. Collaboration avec un compositeur, avec un musicien. Où est-ce que pour vous, c'est vraiment une expérience unique, encapsulée d'une certaine manière, propre évidemment à l'histoire de votre relation avec Bernstein, cette commande qui vous avait passée mais qui a été réalisée plus tard. Comment vous...
C'est unique. Je n'ai pas envie de sortir de m'attaquer à une autre thématique. Et par exemple, Michel Legrand est venu à mon concert l'autre soir. Et après, nous avons longuement parlé. Et j'étais stupéfait parce que Dutilleux est venu. Ça, c'était l'honneur suprême. Nous nous connaissons depuis longtemps, mais le fait qu'il a pris, investi cette énergie pour venir m'écouter dans la salle, je ne l'oublierai jamais. Et plusieurs virtuoses. Et donc, après le concert, on a parlé de musique, de ce qu'on pouvait faire, précisément avec la musique et les mots. Mais moi, j'étais un peu à la retraite de tout ça parce que ça n'a pas de sens de devenir un librettiste.
Sans aller jusque-là, mais est-ce que...
Mon texte est très fort parce que c'est vécu. Je l'ai vécu. C'est la réalité. J'ai tiré ça de mes entrailles. Sur une autre problématique, je ne vois pas comment je peux sortir une telle détermination, une telle force.
Le réciter sur une scène face à un public, dans ce contexte-là, comment ça... Non, mais sur cette symphonie-là, sur le Kaddish, une autre expérience aussi, il y a eu la partie d'écriture, la partie ensuite de... réaliser ça sur une scène, devant un public, comment aussi cette expérience, aussi nouvelle pour vous, je ne parle pas évidemment de parler devant un public, puisque si bien en tant qu'avocat ou dans des conférences, vous l'avez déjà fait, mais se retrouver à parler avec un orchestre symphonique, des choristes autour de soi, quelle expérience aussi là vous tirez de...
C'est une immense surprise pour moi, ça me donne une grande satisfaction. Je me rends compte que c'est Judith Pizarre qui m'a contaminé avec la musique, si je peux utiliser ce mot, parce que quand elle est entrée dans ma vie, j'étais avec Mozart, j'étais avec Beethoven, avec Brahms, mais elle a introduit dans ma vie John Cage. C'était l'extrême de l'extrême, qui est devenu un grand ami. Je réfléchis un peu à ce qu'il faisait. Je n'ai rien compris, mais l'homme était intéressant. Stockhausen, Xenakis, Berlioz, et naturellement Bernstein, comme je vous ai dit, et beaucoup d'autres. Donc, j'étais dans cette compagnie, mais sans rien comprendre. Peu à peu, j'ai évolué, mais de devenir un artiste actif parmi eux, ça, je ne me permettrai pas. Sauf dans des circonstances particulières, comme cette rencontre avec Bernstein. C'est une rencontre qui venait de très très loin. C'était très enrichissant. Je ferai encore une série de concerts avec cette symphonie, probablement en Israël, peut-être à New York. On m'a invité à Venise, au Fenice. Je ne sais pas si je le ferai. Paris était un immense défi pour moi. Et j'ai beaucoup hésité parce qu'on m'a demandé si je ne voulais pas le faire en français. Parce que j'ai écrit le texte français aussi. J'ai fait la traduction moi-même. Et ça aussi, c'était complexe parce que de traduire de l'anglais en français, n'importe quel texte, ça donne 15% de plus. Donc, vous voyez la complexité encore. Il y a déjà, il manque de l'espace pour dire ce que je voulais dire avec le texte anglais, avec le français, c'est encore plus.
Ça aurait été comme réécrire un deuxième texte, presque. Oui.
Mais c'est une ambition que je suis en train de nourrir un peu. Le texte était surtitré. Et les gens ont suivi le texte. Je me suis rendu compte que ça marche très très bien. J'ai appris un peu la technologie de ça. Je voulais comprendre comment est-ce possible qu'au moment où je parle, l'équivalent en français est dans le sous-titre. Mais vous savez, c'est artisanal. Il y a un homme qui s'occupe de ça. Ce n'est pas une machine. C'est très intéressant. Donc je le ferai en français. J'ai envie de le faire en russe, parce que j'ai cette langue aussi. À Berlin, je le fais en anglais. Tous les Allemands parlent anglais, mais voilà mes limites, mes paramètres. Et de sortir de ces paramètres-là, je ne pense pas.
Quel rôle joue la musique pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes... Vous écoutez beaucoup de musique, est-ce que vous allez beaucoup au concert, vous achetez beaucoup de disques, quel rôle la musique joue dans
vous ? Énormément. Mon guide, c'est ma femme, nous avons un concert ce soir, je dirais 2-3 fois par semaine. Quand nous sommes à Paris, nous sommes au Théâtre des Champs-Élysées ou à la salle Pleyel, à New York, à Carnegie Hall, constamment. Et avec nos amis, avec Seiji Ozawa, avec Bernstein autrefois, là, ici même, chez moi, vous êtes dans le jardin de Claude Debussy. Et sa maison est à côté, et c'était son jardin. Ma maison n'existait pas à l'époque. Et mon voisin de l'autre côté, c'était Arthur Rubinstein. La musique.
Les ondes, il y a des ondes positives musicales, on va dire.
Oui, il y a beaucoup de musique dans ma vie. Au début, je résistais un peu, mais finalement, je cédais. Dans cette phase de ma vie, je suis très content d'avoir pénétré un peu ce paradis musical.
Samuel Pizar, merci beaucoup. Je rappelle que l'album Kaddish, donc enregistré avec John Axelrod, vient de sortir sur le label Nimbus. Merci beaucoup.
Merci. Thank you.
www.radiocampusparis.com. Rencontre par Marc Zisman.